Bonjour, vous êtes sur Fréquence Mistral, dans des mots d'ici, des mots d'ailleurs, sur www.fréquencemistral.com. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, patchwork de textes, de mots et de notes. Vous avez toujours le choix de laisser entrer la lumière ou garder les volets fermés. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs. Tendant les mains hors du lit, Plume fut étonné de ne pas rencontrer le mur. « Tiens, pensa-t-il, les fourmis l'auront mangé. » Et il se rendormit. Puis après, sa femme l'attrapa et le secoua. « Regarde, dit-elle, fainéant, pendant que tu étais occupé à dormir, on nous a volé notre maison. » En effet, un ciel intact s'étendait de tous côtés. « Bah, la chose est faite, pensa-t-il. » Peu après, un bruit se fit entendre. C'est un train qui arrivait sur eux à toute allure. « De l'air pressé qu'il a, pensa-t-il, il arrivera sûrement avant nous. » Et il se rendormit. Ensuite, le froid le réveilla. Il était tout trempé de sang. Quelques morceaux de sa femme gisait près de lui. Avec le sang, pensa-t-il, surgissent toujours quantité de désagréments. Si ce train pouvait n'être pas passé, j'en serais fort heureux. Mais puisqu'il était déjà passé, et il se rendormit. Voyons, disait le juge, comment expliquez-vous que votre femme se soit blessée au point que l'on ait trouvé partagée en 8 morceaux ? Sans que vous, qui étiez à côté, ayez pu faire un geste pour l'en empêcher, sans même vous en être aperçu. Voilà le mystère. Toute l'affaire est là-dedans. Sur ce chemin, je ne peux pas l'aider, pensa Plume, et il se rendormit. L'exécution aura lieu demain. Accusé, avez-vous quelque chose à ajouter ? « Excusez-moi, dit-il, je n'ai pas suivi l'affaire, et il se rendormit. » Thank you. Ce doit être un jeudi soir que je la rencontrais pour la première fois. Au dancing, j'arrivais au bureau. Le lendemain matin, ayant dormi une ou deux heures, j'avais l'air d'un somnambule. La journée passa comme un rêve. Après dîner, je m'endormis sur le divan pour me réveiller tout habillé le matin suivant sur les 6 heures. Je me sentais frais et dispo, le cœur pur, obsédé d'une seule idée, la posséder à tout prix. Tout en traversant à pied le parc, je me demandais quel genre de fleurs lui envoyer avec le livre que je lui avais promis. J'approchais de ma 33e année, l'âge du Christ en croix. Alléluia! Une vie entièrement neuve s'ouvrait devant moi, pourvu que j'eusse le courage de tout mettre en jeu. En fait, l'enjeu était nul. J'étais au plus bas de l'échelle, un raté dans toute l'acception du terme. C'était donc un samedi matin, et pour moi, samedi a toujours été le jour le plus propice de la semaine. Je me mets à vivre quand les autres tombent de fatigue comme des mouches. La semaine commence pour moi, le samedi. J'étais loin de me figurer que cette semaine allait être l'apothéose de ma vie et durer 7 longues années. Je savais seulement que je me trouvais devant un jour propice et gros d'événements. Faire le pas fatal, tout balancer par-dessus bord, c'est en soi une émancipation. Pas une seconde, je ne songeais aux conséquences de l'acte. Capituler, absolument et sans condition, devant la femme que l'on aime, c'est rompre tous les liens. Hormis la plus terrible, le désir de ne pas la perdre, le désir de ne pas se perdre et le désir de ne pas perdre. Perdre, perdre tous ses repères, le chemin de la vie, quelle expression grandiose, comme qui dirait vérité. Là, tout s'arrête, tout est contenu, et l'analyste, de son côté, « Adaptez-vous !» lui dit-il. Il ne veut pas dire, comme d'aucuns préfèrent le penser, adaptez-vous à cet état de pourriture qu'est la nôtre. Non. Adaptez-vous à la vie. Devenez un adepte. Il n'existe pas de plus hauts ajustements. Faire de soi un adepte. Les fleurs les plus délicates sont les premières emportées par la tempête. Le géant tombe, victime de la fronde. Chaque cime que nous atteignons voit se renouveler et s'épaissir le mystère périlleux qui nous menace. Le lâche est souvent enseveli sous le mur même au pied duquel il avait blotti sa peur et son angoisse. Un trait habile perce la plus fine cote de maille. Les plus grandes armadas finissent toujours par sombrer. Les lignes Maginot, le cheval de Troie, où se cache la sécurité, quelle protection inventée que l'on ait déjà trouvée, Il est vain de songer à la sécurité, car elle n'existe pas. L'homme qui cherche la sécurité, serait-ce au fond de son esprit, ressemble à celui qui voudrait se couper les jambes pour les troquer contre des mécaniques qui ne lui causeraient ni peine, ni ennui. Alors, entendez-vous donc sur le sofa moelleux que vous offre l'analyste et tâchez de concevoir autre chose de différent. L'analyste a devant lui tout le temps, toute la patience nécessaire. Chaque minute de son temps que vous prenez, c'est de l'argent qui tombe dans son gousset. Il est pareil à Dieu, en un sens. Le Dieu de votre création. Vous pouvez geindre, hurler, supplier, pleurer, implorer, cajoler, prier, maudire, n'importe quoi. Il vous écoute. Et l'argent tombe dans le gousset. Qui perd au change? Si vous estimez qu'il peut vous être une aide plus utile que vous-même, collez à lui jusqu'à la mort. Lui n'a rien à perdre. Mais si vous vous rendez compte qu'il n'est pas Dieu, comptez sur vous-même. Comptez sur vous-même. Comme Plume arrivait au palais, avec ses lettres de créance, la reine lui dit « Voilà, le roi en ce moment est fort occupé. Vous le verrez plus tard. Nous irons le chercher ensemble, si vous voulez bien, vers 5h. Sa majesté aime beaucoup les Danois. Sa majesté vous recevra bien volontiers. Vous pourriez peut-être un peu vous promener avec moi en attendant. Comme le palais est très grand, j'ai toujours peur de m'y perdre, de me trouver tout à coup devant les cuisines. Alors vous comprenez, pour une reine, ce serait tellement ridicule. Nous allons aller par ici, je connais bien le chemin. Voici ma chambre à coucher. » Et ils entrent dans la chambre à coucher. « Comme nous avons deux bonnes heures devant nous, vous pourriez peut-être me faire un peu de lecture. Par ici, je n'ai pas grand-chose d'intéressant. » Peut-être jouez-vous aux cartes, mais je vous avouerai que moi, je perds tout de suite. De toute façon, ne restez pas debout. C'est fatigant. Ah si, on s'ennuie bientôt, alors on pourrait peut-être s'étendre sur ce divan. Mais elle se relève bientôt. Dans cette chambre, il règne toujours une chaleur insupportable. Si vous vouliez m'aider à me déshabiller, vous me feriez plaisir. Après, on pourra parler comme il faut. Je voudrais tant avoir quelques renseignements sur le Danemark. Cette robe, du reste, s'enlève si facilement. Je me demande comment je reste habillée toute la journée. Cette robe s'enlève sans qu'on s'en rende compte. Voyez, je lève les bras et maintenant, un enfant la tirerait à lui. Naturellement, je la laisserai pas faire. Je les aime beaucoup. Mais on jase tellement dans un palais. On jase. Et puis, les enfants, ça égare tout. Et Plume la déshabille. Mais vous, écoutez, ne restez pas comme ça. Se tenir tout habillé dans une chambre, ça fait très guindé. Et puis, je ne peux vous voir ainsi. Il me semble que vous allez sortir et me laisser seul dans ce palais qui est tellement vaste. Et Plume se déshabille. Ensuite, il se couche en chemise. « Il n'est encore que 3h15, » dit-elle. « En savez-vous vraiment autant sur le Danemark que vous puissiez m'en parler pendant 1h15 ?»« Je ne serai pas si exigeante. Je comprends que cela serait très difficile. Je vous accorde encore quelques temps pour la réflexion. Et tenez, en attendant, comme vous êtes ici, je vais vous montrer quelque chose qui m'intrigue beaucoup. Je serai curieuse de savoir ce qu'un Danois en pensera. J'ai ici, voyez, sous le sein droit, trois petits signes. Non, pas trois, deux petits et un grand. Voyez le grand, il a presque l'air de... Cela est bizarre en vérité, n'est-ce pas? Et voyez le sein gauche, rien, tout blanc. Écoutez, dites-moi quelque chose, mais examinez bien d'abord, bien à votre aise. Et voilà Plume qui examine, il touche, il tâte avec les doigts, peu sûr. À la recherche des réalités, le fait trembler. Et ils font et refont leur trajet incurvé. Et Plume réfléchit. Vous vous demandez, je vois, dit la reine, après quelques instants, je vois maintenant que vous vous y connaissez. Vous voudriez savoir si j'en ai pas un autre ? Non, dit-elle, et elle devient toute confuse, toute rouge. Et maintenant, parlez-moi du Danemark, mais tenez-vous tout contre moi, pour que je vous écoute plus attentivement, sans avoir l'air vraiment fondamentalement hypocrite. Plume avance, il se couche près d'elle, et il ne pourra plus rien dissimuler, maintenant. Et en effet, écoutez, dit-elle, je vous croyais plus de respect pour la reine, mais enfin, puisque vous en êtes là, je ne voudrais pas que cela vous empêchât dans la suite de nous entretenir du Danemark. Et la reine la tire à elle. « Et caressez-moi surtout les jambes, disait-elle, sinon je risque tout de suite d'être distraite. Et je ne sais plus pourquoi je me suis couchée. » C'est alors que le roi entra. Aventure terrible, quelle que soit votre âme et vos débuts, aventure douloureuse et guidée par un ennemi implacable. Un vagabond comme vous sur le chemin va peut-être un jour cesser de vomir des eaux d'égout. Si mélodieux qu'en soit l'écho dans vos oreilles, peut-être vous dresserez-vous sur vos deux pattes et vous vous mettrez à chanter de toute la voix dont Dieu vous fit présent, se confesser, feindre, se plaindre, se lamenter, il en coûte toujours gros. Chanter, c'est gratis. Et non seulement gratis, on enrichit les autres. Chanter les louanges du Seigneur, dit le commandement. Ouais. Donc, à plein gosier, plein gosier. Oh, maître maçon, à plein gosier. Heureux guerrier. Mais arguez-vous. Comment chanter quand le monde tombe en miettes, quand tout autour de moi baigne dans le sang et les pleurs? Vous rendez-vous compte que les martyrs chantaient pendant qu'ils flambaient sur le bûcher? Rien à leurs yeux ne croulait en miettes, pas plus qu'ils n'entendaient hurler la souffrance, parce qu'ils chantaient. Il chantait, il débordait de foi pour le chant. Qui peut démolir la foi? Qui balayer la joie? Des hommes s'y sont essayés à travers les âges. Ils ont toujours échoué. joie et foi sont inhérentes à l'univers. La croissance implique souffrance et lutte. L'accomplissement, joie et exubérance. La plénitude, paix et sérénité. Dans l'intervalle des plans et des sphères de l'existence, terrestre et supraterrestre, se rencontrent des échelles et des clés. Celui qui monte chante. Il s'enivre et s'exalte à la vue des espaces immenses qui se déploient. Le pied ne lui manque pas, car il ne pense pas à ce qui est en dessous de lui. Au cas où il viendrait à glisser ou à perdre l'équilibre, mais à ce qu'il voit devant lui. Tout est devant nous. Le chemin ne finit pas. Plus on avance, plus la route s'ouvre à nos yeux. Les marées, la fange, les marécages et la vase mouvante, les trous et les trappes n'existent que dans notre esprit. Ils nous guettent dans l'ombre, attendent pour nous engloutir le moment où nous cessons d'avancer. Le monde des fantasmes est celui que nous n'avons pas achevé de conquérir. C'est un monde où l'on chante, où l'on chante. On chante. Ô maître maçon, à plein gosier, heureux guerrier, chantez, chantez, et ne comptez que sur vous.
Standing in the supermarket, nothing. tears in the pouring rain. Never felt right about it, never again, 'cause nothing really matters. Nothing really matters anymore, not even today, no matter how hard I try.
Mais toi, quand viendras-tu ? Un jour, étendant ta main sur le quartier où j'habite, au moment mûr où je désespère vraiment, dans une seconde de tonnerre, m'arrachant avec terreur et souveraineté de mon corps et du corps croûteux de mes pensées-images, ridicule univers, lâchant en moi ton épouvantable sonde, l'effroyable fraiseuse de ta présence, élevant en un instant sur ma diarrhée ta droite et insurmontable cathédrale, me projetant non comme homme, mais comme obus dans la voie verticale. Tu viendras. Tu viendras si tu existes, appâté par mon gâchis, mon odieuse autonomie, sortant de l'éther, de n'importe où, de dessous mon moi bouleversé, peut-être jetant mon allumette dans ta démesure, et adieu, ou bien quoi ? Jamais ? Non ? Dis, gros lot, où veux-tu donc tomber ? Tout progrès, toute nouvelle observation, toute pensée, toute création semble créer avec une lumière, une zone d'ombre. Toute science crée une nouvelle ignorance. Tout conscient, un nouvel inconscient. Tout apport nouveau crée un nouveau néant. Lecteur, tu tiens donc ici, comme il arrive souvent, un livre qui n'a pas fait l'auteur, quoiqu'un monde y ait participé. Et qu'importe ? Signe, symbole, élan, chute, départ, rapport, discordance, tout y est pour rebondir, pour chercher, pour plus loin, pour autre chose. Entre eux, sans s'y fixer, l'auteur poussa sa vie. Et toi, tu pourrais essayer, peut-être, toi aussi, tu pourrais essayez de chercher les signes.
Thank you.
Le clochard américain est en voie de disparition. Et il en sera ainsi tant que les shérifs opéreront, comme l'a dit Louis Ferdinand Céline, une fois pour un crime et 9 fois par ennui. Car n'ayant rien à faire au milieu de la nuit, à l'heure où tout le monde dort, ils appréhendent le premier être humain qu'ils voient passer. Ils interpellent les amoureux sur un banc même. Ils ne savent absolument que faire dans ces voitures de police de 5 000 $ avec les appareils radio Dictracy, émetteur-récepteur. Ils ne savent qu'arrêter tout ce qui bouge, de nuit comme de jour, tout ce qui paraît se mouvoir sans utiliser l'essence, la vapeur, l'armée ou la police. J'ai été moi-même vagabond, mais j'ai dû abandonner aux alentours de 1956 à cause du nombre croissant d'histoires à la télévision sur les méfaits abominables des étrangers portant des sacs qui marchaient seuls en être indépendants. J'ai été cerné par 3 voitures de police à Tucson, Arizona, à 2 heures du matin. Je marchais sac au dos pour aller passer une douce nuit à dormir dans le désert de la Lune Rouge. Où allez-vous ?
Dormir ?
Où ?
Sur le sable.
Pourquoi ?
J'ai mon sac de couchage.
Pourquoi ?
J'étudie la vie en pleine nature.
Qui êtes-vous ? Vos papiers ?
Je viens de passer l'été au service forestier.
On vous a payé ?
Ouais.
Alors pourquoi n'allez-vous pas à l'hôtel ?
J'aime mieux le grand air et c'est gratuit.
Pourquoi ?
Parce que je fais une étude sur les cheminots.
Qu'est-ce que ça va vous donner ?
Ils voulaient que je leur explique pourquoi je menais une existence de vagabond. Et ils faillirent bien m'arrêter. Mais je leur dis bien sincèrement ce qu'il en était, et ils finirent par se gratter la tête en disant
« Allez-y, si c'est ça que vous voulez. »
Ils ne m'ont pas proposé de faire avec eux en voiture les 7 kilomètres qui nous séparaient du désert.
Et si le shérif de Cochise m'a laissé dormir sur l'argile froide dans les parages de Bowie, Arizona, c'est uniquement parce qu'il ne savait pas que j'étais là.
Il se passe quelque chose d'étrange. Vous ne pouvez même plus être seul dans les régions sauvages et primitives. Il y a toujours un hélicoptère qui vient fouiner par là et il vous faut alors vous camoufler.
En outre, on commence à exiger que vous observiez les avions étranges pour la défense du territoire, comme si vous saviez quelle différence il y a entre les vrais avions étranges et tous les autres avions étranges.
Pour moi, la seule chose à faire, c'est rester dans sa chambre pour se saouler et abandonner les idées de camping et de vagabondage, car il n'est pas un seul shérif ni un seul garde forestier dans aucun des 50 États de l'Union qui vous laissera cuire votre manger sur quelques brindilles enflammées dans la broussaille de la vallée cachée, ni nulle part ailleurs, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que d'appréhender ce qu'il voit se déplacer au dehors sans le secours de l'essence, de la vapeur, de l'armée ou du commissariat de police. Je ne m'obstine pas, je me contente d'aller dans un autre monde. Ray Rainmaker, un gars qui reste à la mission dans la Bowery, disait récemment « Je voudrais que les choses soient comme autrefois, quand mon père était connu sous le nom de Johnny le marcheur des montagnes blanches. Une fois, il a remis en place les os d'un jeune garçon après un accident. On lui a payé à manger et il est parti. Les Français de la région l'appelaient le passant. Les vagabonds d'Amérique, qui peuvent encore voyager d'une manière saine, ont gardé une certaine vitalité. Ils peuvent aller se cacher dans les cimetières et boire du vin dans les bosquets des cimetières et uriner et dormir sur des cartons et fracasser des bouteilles sur des tombes sans se soucier des morts, sans en avoir peur, plein de sérieux et d'humour dans la nuit qui les protège de la police, amusés même et abandonnant les papiers gras de leur pique-nique entre les dalles grises de la mort imaginée, maudissant ce qu'ils croient être les jours véritables. Mais le pauvre clochard des bas quartiers, qu'il est à plaindre. Il dort là, sous le porche, le dos au mur, la tête sur la poitrine, la paume de la main droite tournée vers le haut, comme pour recevoir l'aumône de la nuit. L'autre main pend, solide, ferme, comme celle de Joe Louis, pathétique, rendue tragique par d'inévitables circonstances. La main, comme celle d'un mendiant, est tendue, les doigts suggèrent, semble-t-il, ce qu'il mérite de recevoir, ce qu'il veut recevoir. Il modèle l'aumône. Le pouce touche presque l'extrémité des doigts, comme si du bout de la langue, il était sur le point de dire dans son sommeil, et avec ce geste, ce qu'il ne pouvait pas dire quand il était éveillé. Pourquoi m'en avoir privé ? Pourquoi ne puis-je respirer dans la paix et la douceur de mon propre lit ? Pourquoi suis-je ici dans ces haillons sinistres et innommables, sur ce seuil humiliant ? Il faut que je reste assis, à attendre que les roues de la ville se mettent à rouler. Et il continue. Je ne veux montrer ma main que dans mon sommeil. Je suis incapable de la redresser. Alors profitez de cette occasion pour voir ma prière. Je suis seule, je suis malade, je me meurs. Voyez ma main ouverte. Apprenez le secret de mon cœur humain. Donnez-moi cet objet. Donnez-moi votre main. Emmenez-moi dans les montagnes d'émeraude, hors de la ville. Emmenez-moi en lieu sûr. Soyez bon. Soyez humain. Souriez. Je suis trop fatiguée de tout le reste maintenant, j'en ai assez. J'abandonne. Je m'en vais. Je veux rentrer chez moi. J'y serai en sûreté. Et enfermez-moi, emmenez-moi là où tout est paix et amitié, vers la famille de ma vie, ma mère, mon père, ma sœur, ma femme, et toi aussi mon frère, et toi aussi mon ami. Mais aucun espoir, aucun espoir, aucun espoir, aucun espoir. Je m'éveille et je donnerai $1,000,000 pour être dans mon lit. Ô Seigneur, sauve-moi, sur les routes maléfiques, derrière les réservoirs à pétrole, là où les chiens sanguinaires montrent les dents, derrière les grillages, les autos de police bondissent soudain comme des voitures d'évadés. Mais elles proviennent d'un crime plus secret, plus funeste que les mots ne peuvent le dire. Les bois sont remplis de geôliers.
Yeah.
Laisse derrière lui les maisons stupéfaites. C'est que n'importe qui ne se hasarde pas à se promener ivre. Il traverse la rue calmement et pourrait s'enfiler dans les murs, car il y en a des murs. Seuls les chiens se promènent ainsi, mais un chien s'arrête quand il sent une chienne et il la flaire avec soin. L'ivrogne ne regarde personne et même pas les femmes. Dans la rue, suffoquée de le voir, les gens ne rient pas et voudraient qu'il n'y ait pas eu d'ivrogne, mais tous ceux qui trébuchent en le suivant des yeux regardent à nouveau devant eux en jurant. Quand l'ivrogne est passé, la rue tout entière se meut plus lentement dans la lumière du soleil. Un homme qui repart, aussi pressé qu'avant, ne pourra jamais être l'ivrogne. Les autres regardent sans les distinguer les maisons et le ciel qui sont toujours là, même si personne ne les voit. L'ivrogne ne voit ni le ciel ni les maisons, mais il les connaît. Car d'un pas chancelant, il parcourt un espace aussi net que les franges du ciel. Embarrassés, les gens se demandent à quoi servent les maisons, et les femmes s'arrêtent de regarder les hommes. Tous ont peur, dirait-on, que soudain la voix rauque éclate en un chant et les suive dans l'air. Chaque maison a sa porte, mais il est inutile d'y entrer. L'ivrogne ne chante pas, mais il suit un chemin où il n'y a d'autre obstacle que l'air. Heureusement qu'au-delà, il n'y a pas la mer, car l'ivrogne, en marchant calmement, entrerait également dans la mer et, une fois disparu, il suivrait sur le fond toujours la même route. Et dehors, la lumière serait toujours la même.
Pas de la tête que le boulot, c'est une habitude. T'as la preuve. Ils l'ont bien prise, eux.
C'est comme si tu disais que la vérole est une habitude sous prétexte qu'il y en a qui l'attrapent.
Oh, je te cause boulot, tu pourrais pour maladie, tu comprends? Par ça, c'est une bonne foi.
Permets-moi de te dire que si moi je suis de mauvaise foi, quand toi tu viens défendre le boulot, t'envoies un peu loin le paradoxe.
Je préfère pas te répondre. Tu me fatigues.
C'est le mot paradoxe qui t'emmerde. Parce que tu sais pas ce que ça veut dire, là, voilà la vérité.
La Gesta m'a regardé comme ça.
Du rouge dès le matin, je sais pas comment que tu peux supporter ça.
T'as peut-être pensé que t'as la grenadine, toi.
Au muscadet, monsieur.
Il n'y a plus de vrai.
Goûte. Alors.
Où tu trouves?
Je suis baladin rue de la Clé, 160 balles.
On voit ce prix-là, cette connerie. Ça y est, il va encore flotter. Ah, il y avait longtemps. Au moins, t'as l'abri là-bas.
Ben, qu'est-ce que t'attends pour faire comme eux, pour t'abriter? T'as qu'à acheter les quotidiens du soir, c'est plein de demandes. Offre d'emploi, qu'ils appellent ça, leur piège à bagnard. C'est une bonne lecture.
Où tu vas?
Dormir. Je finirai de déjeuner chez moi.
Puisque je suis au bord de la mer, je peux apprendre de la mer. Personne n'a le droit d'exiger de la mer qu'elle porte tous les bateaux ou du vent qu'il gonfle perpétuellement toutes les voiles. De même, personne n'a le droit d'exiger de moi que ma vie consiste à être prisonnier de certaines fonctions. Pour moi, ce n'est pas le devoir avant tout, mais la vie avant tout. Tout comme les autres hommes, je dois avoir droit à des moments où je puisse faire un pas de côté et sentir que je ne suis pas seulement une partie de cette masse que l'on appelle la population du globe, mais aussi une unité autonome. Ce n'est qu'en un tel instant que je peux être libre vis-à-vis de tous les faits de la vie qui auparavant ont causé mon désespoir. Je peux reconnaître que la mer et le vent ne manqueront pas de me survivre et que l'éternité se soucie peu de moi. Mais qui me demande de me soucier de l'éternité? Ma vie n'est courte que si je la place sur le bio du temps. Les possibilités de ma vie ne sont limitées que si je compte le nombre de mots ou le nombre de livres auxquels j'aurai le temps de donner le jour avant de mourir. Mais qui me demande de compter? Le temps n'est pas l'étalon qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur, car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie. Mais tout ce qui m'arrive d'important et tout ce qui donne à ma vie son merveilleux contenu, la rencontre avec un être aimé, une caresse sur la peau, une aide au moment critique, le spectacle du clair de lune, une promenade en mer à la voile, la joie que l'on donne à un enfant, le frisson devant la beauté, tout cela se déroule totalement en dehors du temps. Car peu importe que je rencontre la beauté l'espace d'une seconde ou l'espace de 100 ans, non seulement la félicité se situe en marge du temps, mais elle nie toute relation entre celui-ci et la vie. Je soulève donc de mes épaules le fardeau du temps et par la même occasion celui des performances que l'on exige de moi. Ma vie n'est pas quelque chose que l'on doive mesurer. Ni le saut du cabri, ni le lever du soleil ne sont des performances. Une vie humaine n'est pas non plus une performance, mais quelque chose qui grandit et cherche à atteindre la perfection. Et ce qui est parfait n'accomplit pas de performance, ce qui est parfait œuvre en état de repos. Il est absurde de prétendre que la mer soit faite pour porter des armadas et des dauphins. Certes, elle le fait, mais en conservant sa liberté. Il est également absurde de prétendre que l'homme soit fait pour autre chose que pour vivre. Certes, il approvisionne des machines et il écrit des livres, mais il pourrait tout aussi bien faire autre chose. L'important est qu'il fasse ce qu'il fait en toute liberté et en pleine conscience de ce que, comme tout autre détail de la création, il est une fin en soi. Il repose en lui-même comme une pierre sur le sable. Je peux même m'affranchir du pouvoir de la mort. Il est vrai que je ne peux me libérer de l'idée que la mort marche sur mes talons et encore moins nier sa réalité. Mais je peux réduire à néant la menace qu'elle constitue en me dispensant d'accrocher ma vie à des points d'appui aussi précaires que le temps et la gloire. Par contre, il n'est pas en mon pouvoir de rester perpétuellement tourné vers la mer et de comparer sa liberté avec la mienne. Le moment arrivera où je devrai me retourner vers la terre et faire face aux organisateurs de l'oppression dont je suis victime. Ce que je serai alors contraint de reconnaître, c'est que l'homme a donné à sa vie des formes qui, au moins en apparence, sont plus fortes que lui. Même avec ma liberté toute récente, je ne puis les briser. Je ne puis que soupirer sous leur poids. Par contre, parmi les exigences qui pèsent sur l'homme, je peux voir lesquelles sont absurdes et lesquelles sont inéluctables. Selon moi, une sorte de liberté est perdue pour toujours ou pour longtemps. C'est la liberté qui vient de la capacité de posséder son propre élément. Le poisson possède le sien, de même que l'oiseau et que l'animal terrestre. Thoreau avait encore la forêt de Walden. Mais où est maintenant la forêt où l'être humain puisse prouver qu'il est possible de vivre en liberté en dehors des formes figées de la société? Je suis obligée de répondre, nulle part. Si je veux vivre libre, il faut pour l'instant que je le fasse à l'intérieur de ces formes. Le monde est donc plus fort que moi. À son pouvoir, je n'ai rien à opposer que moi-même. Mais d'un autre côté, c'est considérable. Car tant que je ne me laisse pas écraser par le nombre, je suis moi aussi une puissance. Et mon pouvoir est redoutable tant que je puis opposer la force de mes mots à celle du monde. Car celui qui construit des prisons s'exprime moins bien que celui qui bâtit la liberté. Mais ma puissance ne connaîtra plus de bornes le jour où je n'aurai plus que mon silence pour défendre mon inviolabilité. Car aucune hache ne peut avoir de prise sur le silence vivant. Telle est ma seule consolation. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes, mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige. Une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie, c'est-à-dire une raison de vivre.
Me, is it true?
Pourquoi que je vis ? Pourquoi que je vis ? Pour la jambe jaune d'une femme blonde appuyée au mur sous le plein soleil ? Pour la voile ronde d'un pointu du port ? Pour l'ombre des stores ? Le café glacé qu'on boit dans un tube ? Pour toucher le sable, voir le fond de l'eau, qui devient si bleu, qui descend si bas. Avec les poissons, les calmes poissons, ils paissent le fond, volent au-dessus des algues cheveux, comme oiseaux lents, comme oiseaux bleus. Pourquoi que je vis ? Parce que c'est joli. Vous venez d'écouter l'émission mensuelle des mots d'ici, des mots d'ailleurs, proposée et réalisée par James Fontaine
et Nathalie Vautier,
avec à la technique Christophe Becquereau. Vous avez entendu des textes de Henri Miller, extrait de La Crucifixion en rose, de Henri Michaud, extrait de Plume, de Jack Kerouac, extrait du Vagabond américain en voie de disparition, un poème de Cesare Pavese, Indiscipline, issue du recueil Travailler fatigue, un extrait de Notre besoin de consolation est impossible à rassasier, de Stieg Dagerman, et un poème de Boris Vian, Pourquoi que je vis. nous avons lu sur des chants d'oiseaux, la bande originale des vacances de Monsieur Hulot, Melvin Taylor, le chant du coucou, Nick Cave, les bruits de la rue, les quatre saisons de Vivaldi, les sons de la nuit, Ray Cooder, les Talking Heads, Django Reinhardt et Stéphane Grappelli. Un extrait d'Archimède le Clochard avec Gabin et Darry Cole, la bande originale d'In the Mood for Love de Shigeru Umebayashi, les violentes femmes, Grace Jones et un rire d'enfant. Nous nous retrouverons le jeudi 30 mars, dernier jeudi du mois de mars, pour la prochaine émission, même heure, 18h30. Des mots d'ici, des mots d'ailleurs, tu as toujours le choix de laisser entrer la lumière ou de garder les volets fermés.